ce journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Après des semaines de manifestations en France, Emmanuel Macron entend rassurer les chefs d'entreprise et surtout les convaincre d'investir malgré la crise des gilets jaunes. Il réunira 150 d'entre eux aujourd'hui au château de Versailles et devrait à l'occasion annoncer des investissements s'élevant à plusieurs centaines de millions d'euros.
À la veille de l'ouverture à Davos du rendez-vous de l'élite mondiale, voilà qu'un rapport d'Oxfam vient pointer aujourd'hui l'extrême concentration des richesses aux mains d'un club toujours plus restreint.
Oui, les 26 milliardaires les plus riches de la planète détiennent autant que la moitié de l'humanité.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, le procès du scandale de la viande de cheval dans des produits transformés s'ouvre aujourd'hui en France.
C'était en 2013, de la viande de cheval vendue comme du bœuf s'était retrouvée dans des millions de plats cuisinés. Deux anciens dirigeants de la société Spanghero, entreprise de transformation de la viande, ainsi que deux traders néerlandais vont donc être jugés devant le tribunal correctionnel de Paris.
Israël a indiqué avoir frappé tôt lundi des positions du régime syrien et de l'Iran en Syrie.
Des bombardements qui ont tué 11 combattants. Voilà plusieurs années déjà qu'Israël multiplie ainsi les frappes en Syrie, visant tantôt le régime du président Bachar el-Assad, tantôt ses alliés comme le mouvement libanais Hezbollah et l'Iran. Et puis, alors que le bilan de l'explosion d'un oléoduc au Mexique s'est encore aggravé, passant à 85 morts, nous tâcherons de comprendre pourquoi et comment le vol de carburant est devenu aujourd'hui un véritable fléau dans le pays. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Accélérer plus vite, plus rapidement, cette injonction permanente dans tous les domaines, du plus individuel au plus collectif, du travail à la vie privée. Quelles conséquences sur nos vies? Pourquoi faut-il toujours plus gagner en vitesse? Et est-ce qu'on ne perd pas du temps à vouloir aller trop vite? On en parlera avec nos invités.
Et à tout à l'heure. Si dans un contexte social tendu, la décision d'Emmanuel Macron de ne pas se rendre au Forum économique mondial de Davos semblait répondre à la volonté de ne pas rajouter de l'huile sur le feu de la contestation, qu'en sera-t-il de la convocation aujourd'hui au château de Versailles de quelques 150 chefs d'entreprise, dont de nombreuses multinationales? À l'occasion de ce second sommet baptisé Choose France, choisir la France en bon français, et au surlendemain d'un dixième samedi de mobilisation, le chef de l'État entend assurer les patrons de sa volonté de continuer à réformer le pays pour le rendre plus attractif, tout en écoutant par ailleurs les revendications des Français. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Comment Emmanuel Macron compte-t-il donc s'y prendre pour convaincre les chefs d'entreprise d'investir en France malgré la crise des gilets jaunes?
Alors, comme l'an dernier, l'Élysée a vu les choses en grand pour ses rencontres, censé créer un climat de confiance propice aux affaires. Après un déjeuner autour du Premier ministre, les chefs d'entreprise pourront s'entretenir entre eux ou avec les 24 membres du gouvernement présents. Plus de 400 rencontres bilatérales sont programmées. Certains chefs d'entreprise échangeront aussi avec Édouard Philippe et Emmanuel Macron. La journée s'achèvera par un discours du président de la République et un dîner. Alors voilà pour le programme de cette journée sous les ors de Versailles, censé favoriser engagement et contrat et adresser aux investisseurs étrangers un message d'encouragement à continuer, car les investissements en France se portent bien. Ils sont même en hausse spectaculaire, note le baromètre du cabinet EY qui mesure l'attractivité française. Seulement voilà, pour cette deuxième édition, vous le disiez, l'opération de communication et de séduction prend un tour bien différent vu le contexte. Il s'agit de répondre à des attentes assez contradictoires. D'un côté, assurer les patrons et investisseurs étrangers de ce que l'exécutif ne cesse de répéter. Il ne compte pas changer de politique économique, même avec la mobilisation des gilets jaunes. Dire cela donc sans pour autant remettre de l'huile sur le feu de la contestation au moment même où le grand débat national fait entendre ceux qui peinent à vivre de leur travail. Pour tenir sur ce fil, l'Élysée a choisi d'articuler toute sa communication autour d'un terme, celui de territoire, pour expliquer que de grands groupes qui viennent en France, ce sont des emplois dans les territoires. C'est d'ailleurs aussi pour cela que cette année, des présidents de région ont été invités aux côtés des grands dirigeants internationaux comme ceux de Microsoft, Uber, HSBC, Bayer, pour n'en citer que quelques-uns, ainsi que d'une trentaine de patrons français.
Merci Catherine Pétillon. Alors, hasard du calendrier, il se trouve que c'est aujourd'hui, en ce troisième lundi de janvier, qualifié selon une prétendue étude scientifique de Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année, que la publication du traditionnel rapport annuel d'Oxfam vient nous démontrer, chiffre à l'appui, à quel point le fossé s'est encore agrandi dans le monde entre les riches d'un côté et les pauvres de l'autre, ou plus exactement que la concentration de la richesse s'est encore accentuée en 2018. Au total, 26 milliardaires détiennent désormais entre leurs mains autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Benoît Bousquet. Mascarel, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors les chiffres et surtout les sommes de cette course frénétique au gain sont telles qu'on a même du mal en réalité à se les représenter. On en citera deux en particulier. Tout d'abord, la quasi-totalité du budget santé de l'Éthiopie correspond aujourd'hui à 1% seulement de la fortune du patron d'Amazon, l'homme le plus riche de la planète. Et puis, 26 personnes possèdent donc désormais autant de richesses que 3,8 milliards d'individus. Ils étaient 43 l'an dernier, de sorte que, Benoît, on a le sentiment que d'année en année, finalement, la situation ne fait qu'empirer.
Oui, question, cette augmentation de la concentration des richesses est-elle une fatalité, conséquence inévitable des inégalités galopantes contre lesquelles politique nationale et économie mondialisée ne pourraient rien? Pas forcément. Un peu de recul avec les travaux de Thomas Piketty, par exemple, nous démontre que les inégalités globales ont déjà été beaucoup plus importantes à la fin du 19e siècle, par exemple, et que donc on les avait diminuées depuis. Christian Chavagneux est économiste et éditorialiste à Alternatives économiques.
L'un des grands facteurs de baisse des inégalités quand on se projette au niveau mondial, ça a été la montée en puissance de la Chine. Mais aujourd'hui, peut-être que la Chine est arrivée au bout de sa dynamique, peut-être que l'Inde est arrivée au bout de sa dynamique de réduction des inégalités. Il va encore y en avoir un peu, beaucoup moins que dans les décennies passées. Et on sait que le grand continent qui pose des problèmes, c'est l'Afrique, avec une démographie galopante et des inégalités de revenus très fortes. Donc la perspective, c'est plutôt pour les décennies qui viennent, une augmentation des inégalités au niveau mondial.
Alors une fois les richesses créées, c'est bien au niveau national qu'on décide de leur plus ou moins grande répartition. Et là, tout est évidemment affaire de volonté politique. En France, par exemple, où les inégalités progressent de nouveau également. Christian Chavagneux.
C'est aussi que les choix politiques qui ont été faits majoritairement depuis la fin des années 90 et encore plus depuis le début des années 2000 ont quand même favorisé les plus riches. Vous avez des baisses de taux d'imposition les plus hauts sur les plus fortunés, des baisses de l'imposition sur les rendements du capital et en même temps, de l'autre côté, des salaires qui progressent peu. La conclusion logique, elle est pratiquement mathématique, ça induit un creusement des inégalités.
Avec la publication de ce rapport au moment où la planète finance se réunit à Davos et où en France, les Gilets jaunes réussissent à imposer un grand débat sur la fiscalité, Oxfam appelle les dirigeants politiques à s'assurer que les entreprises et les plus riches payent leur part d'impôts, autrement dit, à ne pas attendre que les richesses ruissellent.
Merci Benoît Bouscarel. L'invité à présent du journal pour évoquer notamment la deuxième édition de ce sommet Choisir la France, Bernard Spitz, président de la Commission européenne internationale du MEDEF. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et avant d'évoquer donc la réception aujourd'hui à Versailles de quelques 150 chefs d'entreprise françaises et étrangers par Emmanuel Macron, votre réaction tout de même, monsieur Spitz, à ce rapport aussi abstrait que totalement vertigineux, publié donc par Oxfam, à tout le moins il semble démontrer que le fameux effet dit du ruissellement ne fonctionne pas.
Oui, vous savez, c'est comme l'a dit votre journaliste, c'est si on raisonne de façon complètement globale, on est dans l'abstrait. C'est pays par pays que les questions se posent. Et là, le petit correctif que je voudrais faire, c'est que en France, les inégalités sont beaucoup plus faibles qu'elles ne le sont dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, et qu'en plus. Ce qui les mesure, on ne va pas rentrer dans les détails statistiques, mais ce qui les mesure et qui s'appelle l'indice de Gini et qu'on pourra retrouver sur Internet facilement, montre que au cours des 10 dernières années, il y a plutôt eu une légère diminution. C'est-à-dire qu'en France, la France est quand même le pays dans lequel les inégalités sont les plus faibles. Alors c'est particulièrement vrai en matière de revenus après impôts, parce que si on regarde évidemment avant impôt, après impôt, c'est pas tout à fait la même chose, et même en termes patrimonial. Donc voilà, il faut regarder dans le détail, c'est pas pour dire que la question des inégalités ne se pose pas, elle se pose, et d'ailleurs paradoxalement, elle s'est posée à Davos, puisque un certain nombre de grands dirigeants, depuis longtemps, tirent la sonnette d'alarme sur cette question en disant qu'il faut arriver à une croissance qui soit plus inclusive et plus juste, plus équitable, que c'est d'ailleurs le thème que le MEDEF a décidé de mettre en avant depuis plusieurs années et qui sera le thème central de la réunion du B7 qui aura lieu en juin prochain en France. Et donc, vous voyez qu'au fond, on ne se cache pas derrière son petit doigt. Il y a un vrai sujet, il est simplement moins cru en France qu'ailleurs, c'est juste important de le savoir.
Alors précisément, puisqu'il n'est pas question de se cacher derrière son petit doigt, est-ce que vous estimez que ces inégalités, vous comprenez plutôt qu'elles puissent attiser la colère, pas seulement en France d'ailleurs, mais partout dans le monde aujourd'hui ?
précisément, il y a une question de fonctionnement de l'économie et qui ne doit pas profiter qu'à une minorité. Mais après, si vous regardez, par exemple, vous disiez tout à l'heure que Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde. Ce qui est intéressant, c'est que Monsieur Bezos devait avoir en tout et pour tout sa bourse d'étudiant il y a 20 ans. Et donc, il a réussi à construire en très peu de temps une réussite extraordinaire. Donc, c'est un message aussi sur le fait qu'une société offre des chances, offre des opportunités, et que c'est pas simplement la reproduction éternelle des mêmes inégalités. Il y a de la mobilité même dans ce domaine. Donc, je crois qu'il faut regarder les choses de plus près. Et qu'en tout cas, pour ce qui est de la réunion aujourd'hui en France, c'est important de se dire que l'image de la France et l'attractivité de la France vont permettre, et c'est essentiel, de créer de l'emploi, de la croissance, effectivement d'aller dans les territoires. C'est aussi ce que demande le corps social français. Le corps social français, il est choqué du fait que il y a des inégalités, mais il est surtout choqué du fait que il y a pas assez d'emplois. La France a moins d'emplois que les autres. Il est choqué du fait que l'ascenseur social ne fonctionne pas. C'est tout ça aussi qu'il importe de changer.
Emmanuel Macron devrait annoncer donc aujourd'hui des investissements s'élevant, nous dit-on, à plusieurs centaines de millions d'euros. Vers quel domaine seront-ils consacrés ?
Ah, écoutez, je suis pas le maître d'œuvre, et ça, il faut demander au pouvoir public les domaines qu'ils ont privilégiés. Mais ce qui, de façon générale, je n'ose pas dire peu importe, mais ce qui compte, c'est qu'il y ait l'envie, la confiance de la part des investisseurs, si vous voulez, d'investir en France. On voit bien, vous avez un pays qui est le Royaume-Uni. Nos amis britanniques qui ont créé une incertitude et qui ne cessent d'ajouter de l'incertitude à l'incertitude. C'est exactement ce dont les investisseurs ne veulent pas. Une décision d'investissement, c'est pas quelque chose qui se fait sur un claquement de doigts, c'est une décision qui entraîne des conséquences pendant des années et des années et des années. Donc si on n'a pas confiance dans la stabilité d'un pays, dans la stabilité de ses règles fiscales, dans la stabilité de ses règles sociales et dans la capacité du corps social à adhérer au projet, évidemment, pour des pays étrangers, c'est des éléments négatifs. Si on arrive au contraire à les convaincre que la France est un pays attractif et qui a des qualités extraordinaires, puisqu'on a à la fois un art de vivre, une compétence au niveau des individus, des services publics performants, des réseaux de transport, des réseaux universitaires académiques et une capacité à nous étendre sur le monde. Et bien, si on met tout ça en valeur, et bien, on est effectivement en situation de pouvoir attirer des investisseurs et d'en faire profiter tous les Français.
Une question à Bernard Spitz de Catherine Pétillon du Service Éco.
Oui, la réalité des inégalités est peut-être plus nuancée que le tableau que vous en faites. En tout cas, elles sont beaucoup contenues par les transferts sociaux en France, par le modèle social français. Choose France a été voulu par l'Élysée comme un avant Davos. C'est le sommet de l'économie mondiale qui va débuter demain. Son thème, c'est la construction d'une meilleure version de la mondialisation. Bruno Le Maire veut lui aussi montrer la vision d'un nouveau capitalisme de la France. Quel doit être le rôle des entreprises dans cette lutte contre les inégalités ?
Le MEDEF vient d'adopter, vous savez, sa raison d'être, et il est question de croissance, il est question d'inclusion, c'est-à-dire qu'effectivement la croissance, elle doit être inclusive, elle doit permettre à l'ensemble des acteurs d'y trouver leur compte. Ça veut dire qu'elle doit financer des dépenses d'infrastructures en matière de santé, en matière d'éducation. Très gros effort sur l'éducation, qui est absolument clé pour l'avenir de nos enfants et pour la compétitivité du pays. Donc les entreprises, elles participent à cet effort de formation puisqu'elles ont été mises au premier plan, notamment en matière d'apprentissage. Elles participent par leur financement. Les prélèvements obligatoires des entreprises en France sont les plus importants d'Europe et c'est ce qui permet de financer des dépenses publiques qui sont les plus élevées d'Europe et donc de financer toute une série de services sociaux qu'on oublie toujours lorsqu'on regarde la question pure des revenus. Mais l'école gratuite, la santé avec un niveau d'excellence gratuite, tout ça, ce sont aussi des acquis français qui sont financés par l'effort à la fois des Français et des entreprises.
Une dernière question rapidement, Monsieur Spitz, si vous aviez un cahier de doléances devant vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez y inscrire ?
Ben écoutez, on va y réfléchir collectivement parce qu'on compte bien, le MEDEF compte bien participer à cet exercice. Donc je crois qu'on va essayer de trouver des idées en matière de mobilité. Il y a un vrai sujet sur la mobilité en France qui pose la question des territoires. Et il y a aussi un sujet d'ouverture sur la question sociale. Je crois qu'il faut replacer la dimension sociale au cœur d'un certain nombre de nos problématiques. Et j'ajoute que lors du G20 qui s'était tenu à Cannes, sous la présidence française, il y a quelques années, nous avions avions fait la première réunion entre et le premier accord historiquement entre l'ensemble des entreprises que le MEDEF représentait et l'ensemble des syndicats du monde entier représentés par la Confédération syndicale internationale qu'on appelle le L20. Eh bien, cet accord, il est la base des réflexions qui sont aujourd'hui entreprises, et nous ferons à Aix, où aura lieu le B7 de juin, une réunion, une rencontre entre l'ensemble des syndicats à nouveau et l'ensemble des entreprises pour justement avancer dans le sens d'une plus grande égalité, équité dans les relations entre entreprises et le monde social. Et je crois que ça peut être aussi un bon signal pour sur le plan international et national. Parce qu'on peut pas arriver à une solution satisfaisante, ça fait le lien avec le début de votre reportage. S'il n'y a pas de réponse nationale, on n'arrive pas, mais s'il n'y a pas non plus une prise en compte de la communauté internationale, ça ne marche pas non plus.
Merci. Merci Bernard Spitz, président de la Commission européenne internationale du MEDEF, d'avoir été en direct avec nous, ainsi qu'à Frédéric Kérou pour les moyens techniques. Après le juge, Alexandre Benalla est attendu de pied ferme aujourd'hui par les sénateurs. L'ancien homme de confiance d'Emmanuel Macron, mis en examen une troisième fois, doit être de nouveau entendu ce lundi par la commission des lois du Sénat, constituée en commission d'enquête parlementaire. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui à Paris brisera-t-il enfin le cercle infernal des scandales alimentaires? Après que de la viande de cheval vendue comme du bœuf avait été découverte dans des millions de plats cuisinés, c'était en 2013, deux anciens dirigeants de l'entreprise Spanghero ainsi que deux négociants néerlandais vont comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris. Les quatre hommes sont jugés pour tromperie sur la marchandise et escroquerie en bande organisée. Les précisions de Florence Turm.
C'est un scandale à l'échelle européenne qui avait d'ailleurs débouché sur une enquête à dimension européenne. Scandale en cascade qui débute en janvier 2013 avec la découverte en Grande-Bretagne de viande de cheval dans des steaks hachés certifiés pur bœuf. Pointé du doigt le sous-traitant français Comigel qui produit des plats surgelés distribués dans plusieurs pays européens, met en cause l'un de ses fournisseurs, la société Spanghero située à Castelnaudary dans l'Aude. Cette fois, les tests vétérinaires démontrent la présence de viande de cheval dans des lasagnes surgelé Picard. Retentissement jusqu'au bout de la chaîne alimentaire, même s'ils ne présentent pas de danger sanitaire, les produits sont retirés des rayons, distributeurs et consommateurs s'estiment les uns et les autres trompés et lésés. Spanghero incrimine à son tour son producteur de viande roumain, mais les investigations révèlent une escroquerie organisée particulièrement lucrative. Au cours de l'instruction, les enquêteurs découvrent un système d'étiquetage frauduleux. Non seulement la viande ne porte pas la mention du pays d'origine, la Roumanie, mais les étiquette laisse croire qu'elle a été transformée dans les ateliers de Spanghero et présente les produits comme des avants de bœuf désossés alors qu'il s'agit de cheval. Au demeurant 30% moins cher sur le marché, ce qui aurait permis à Spanghero de redresser en partie les pertes de la société. L'ancien dirigeant de l'entreprise, Jacques Poujol, aujourd'hui sur le banc des prévenus, se dit pour sa part victime du négociant néerlandais également poursuivi dans le dossier et qui venait à l'époque d'être condamné aux Pays-Bas pour une autre affaire, de la viande de cheval en provenance du Brésil et du Mexique qu'il revendait pour du bœuf halal.
S'il fallait encore se convaincre de ce que le conflit syrien déclenché en 2011 par la répression de manifestations pro-démocratie par le régime s'est complexifié au fil des ans, en particulier avec l'implication de groupes djihadistes, mais aussi de puissances régionales et étrangères, les événements survenus ces dernières 24 heures en sont une illustration aussi éclatante que sanglante. Hier, la Syrie a été secouée par deux attentats. À Damas, tout d'abord, première attaque qualifiée de terroriste dans la capitale en plus d'un an. Et puis, quelques heures plus tard à peine, c'est la ville d'Afrin, à majorité kurde, qui a été le théâtre d'une explosion meurtrière dans un bus faisant 3 morts et 9 blessés. Enfin, cette nuit, l'armée israélienne a annoncé pour sa part avoir mené des frappes sur des cibles iraniennes en Syrie. Alors ce n'est pas la première fois que l'État hébreu effectue ainsi des frappes visant le Hezbollah libanais ou ce qu'il considère comme des positions de l'armée iranienne. En revanche, il est plus rare qu'Israël confirme publiquement avoir mené de telles frappes dont le bilan s'établirait à 11 morts. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Comment expliquer qu'Israël s'exprime plus ouvertement aujourd'hui à propos du théâtre syrien? Certains analystes estiment qu'à l'approche des élections législatives le 9 avril prochain, eh bien, cela permettrait peut-être au Premier ministre Benjamin Netanyahou d'accroître sa crédibilité sur le plan sécuritaire.
Vous savez, Thomas, la pointe de fer du chef de gouvernement israélien n'est plus approuvée. Ces raids sur la Syrie, officiellement destinés à contenir la présence des Pasdarans, les gardiens de la révolution iranienne, sont devenus presque routiniers. Benjamin Netanyahou le dit lui-même. L'armée israélienne a mené des centaines de frappes ces dernières années en Syrie. Cette présence militaire iranienne, ainsi que celle de son allié libanais, du Hezbollah, rend nerveux Israël depuis que Téhéran et le parti chiite se sont portés au secours de Bachar al-Assad. Les tunnels du Hezbollah récemment découverts à la frontière entre le Liban et l'État hébreu n'incitent pas l'armée l'armée israélienne a baissé la garde. Dans le sud de la Syrie, on sait que Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou ont tracé une ligne rouge au-delà de laquelle aucune présence iranienne n'est tolérée. Les Russes, qui contrôlent l'espace aérien syrien, ferment les yeux sur ces frappes israéliennes car eux aussi trouvent les Iraniens un peu trop envahissants et ne sont pas mécontents que les Israéliens s'en prennent au Pasdar. Alors, c'est vrai, sur le plan intérieur israélien, ces frappes à répétition sont aussi un moyen commode pour Benjamin Netanyahou de redorer son blason et de détourner l'attention de l'opinion publique sur des questions de sécurité extérieure qui font consensus. Le Premier ministre israélien est actuellement embourbé dans 3 affaires de corruption et la police a recommandé son inculpation. Netanyahou crie à l'injustice, au procès politique, mais il est bel et bien sous pression.
Merci Christian Cheneau. Aux États-Unis, au projet controversé de construction d'un mur à la frontière avec le Mexique, voilà qu'on apprend que Donald Trump aurait poursuivi jusqu'à l'automne 2016 des discussions sur un projet de construction d'une Trump Tower à Moscou. C'est du moins ce qu'a déclaré hier son avocat Rudolph Giuliani, au point de soulever de nouvelles questions sur les liens présumés entre l'homme d'affaires et la Russie. Le nouveau bilan de l'explosion d'un oléoduc vendredi dernier au Mexique fait état de 85 morts. Tout le week-end, sur les chaînes de télévision locales et les réseaux sociaux, aux images de liesse montrant des centaines d'habitants venus recueillir à l'aide de seaux l'essence qui jaillissait du pipeline après avoir été perforé, ont succédé des scènes de chaos, des torches humaines surpris par l'explosion et les corps calcinés de tous ceux qui n'ont pas réussi à fuir l'énorme brasier. Une tragédie qui vient une fois de plus rappeler combien le vol de carburant est devenu au Mexique un véritable fléau contre lequel le nouveau président tente de mettre en œuvre une stratégie nationale contre les huachicoleros dont l'activité illégale est la contrebande d'essence. Sur cette question, Olivier Poujade a sollicité l'analyse de Romain Lecourt, grand maison, doctorant spécialiste du Mexique et fondateur du think tank Noria. On l'écoute.
Le fait de pirater des oléoducs, c'est quelque chose qui est quand même assez ancien et qui est lié à la corruption de l'entreprise nationale pétrolière Pemex, qui a toujours fermé les yeux là-dessus, et à la corruption des autorités locales qui en général se servent depuis toujours une com au passage des piratages d'oléoducs. Après, effectivement, il y a eu une explosion du chiffre de piratage d'oléoducs et donc de prélèvement d'essence illégale directement sur les conduits, ce qui fait perdre plusieurs milliards de dollars quand même. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a un manque à gagner qui est gigantesque pour le gouvernement. Ensuite, sur la question de la politique d'AMLO et d'en faire un cheval de bataille, s'attaquer à l'aspect prélèvement de l'essence sans s'attaquer à la corruption, à la collusion et aux gens qui tirent profit de ça, c'est un peu comme d'habitude. Je pense que c'est une vision un peu court-termiste d'un problème qui est beaucoup plus vaste. Après, ben voilà, il a les majorités aux chambres, donc il peut se permettre, y compris de légiférer là-dessus. Est-ce que ça va changer quelque chose à la réalité locale? Est-ce que c'est pas des effets d'annonce? Ce qui est sûr, c'est que l'émotion suscitée par la tragédie de ce week-end va lui permettre de justifier auprès de la population et auprès des gouvernements locaux et auprès des forces armées qu'il faut faire quelque chose.
Voilà, Romain Lecourt, grand maison, donc doctorant spécialiste du Mexique et fondateur du think tank Noria. Il répondait à Olivier Poujade. La première ministre britannique Theresa May de retour cet après-midi dans l'arène de la Chambre des communes. Elle doit y présenter son plan B pour le Brexit après que les députés ont massivement rejeté la semaine dernière l'accord de divorce négocié avec l'Union européenne. En Espagne, la poignée de députés d'extrême droite élus au Parlement de Catalogne avait déjà bouleversé les cartes à l'échelle régionale. À présent, la contagion pourrait s'étendre au niveau national. Ce week-end, lors de la convention du Parti conservateur PP, son président Pablo Casado a plaidé pour une droite sans complexe, exigeant pêle-mêle la suppression de la loi d'égalité homme-femme ou bien encore celle des droits LGBT, autant de demandes qui se retrouvent dans le programme du parti d'extrême droite Vox réactionnaire, nationaliste et anti-féministe. Plus que jamais, c'est certitude qui prévaut en République démocratique du Congo avec désormais 2 présidents. Hier, la Cour constitutionnelle, dont l'indépendance est assez largement mise en cause par les observateurs, a confirmé la victoire de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle du 30 décembre dernier. Décision aussitôt contestée par son rival de l'opposition, Martine Fayulu, lequel s'est immédiatement autoproclamé seul président légitime du pays. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi, à l'exception des plaines du sud-ouest et du massif central, où le temps restera maussade avec quelques pluies partout ailleurs. Grand soleil, quant aux températures, elles sont fraîches, généralement comprises entre 1 et 10 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.